Et on continue d'évoquer les conséquences politiques, les conséquences judiciaires du meurtre de la petite Liana. Tout à l'heure, vous avez entendu l'avocat de la famille. D'ici quelques minutes, il va y avoir une marche blanche qui est organisée par les grands-parents de la petite fille disparue. Nous sommes avec Suzy Bernard-Ménégus. Elle est à Saint-Jean-d'Angély, c'est en Charente-Maritime. C'est là que doit avoir lieu cette marche blanche.
Tout à fait, nous voyons du monde arriver petit à petit ici devant l'hôtel de ville de Saint-Jean-d'Angély. Et puis, eh bien, on a pu rencontrer des habitants, des gens qui venaient des alentours et qui nous parlent de l'importance qu'il y a de venir ici pour cette marche. Je suis avec Jocelyne, vous êtes venue, c'était une évidence de venir aujourd'hui?
Tout à fait, oui, je suis maman, mamie. Je suis très émue encore parce que c'est dramatique. Et je suis écœurée qu'on laisse une ordure comme ça dans la nature. Avec ce qu'il avait fait auparavant déjà. Aujourd'hui, la petite serait peut-être encore là.
En quoi c'est important de venir ici pour cette marche? Est-ce que vous avez espoir qu'elle change quelque chose, cette marche, cette mobilisation?
J'espère que ça va changer. Et je viens surtout pour soutenir aussi la famille. Je ne connais personne, mais pour soutenir la famille.
On sent beaucoup d'émotion. C'est un drame qui traverse la France là, depuis plus d'une semaine. Et l'émotion est encore vive, vous comprenez tout ça, cet engouement, cette mobilisation des gens?
Tout à fait. Surtout lorsqu'on est déjà grands-parents. Et maman aussi. Forcément. Excusez-moi.
On va vous laisser reprendre votre souffle. Voilà, la marche va s'élancer d'ici quelques minutes. Alors le parcours est déjà tracé. Le cortège va donc partir de la mairie. Il va ensuite aller dans le centre-ville, puis devant le collège Georges Texier. Là-bas, il y aura une prise de parole de la tante de Liana qui est présente. Puis il y aura également une minute de silence. Et enfin, la marche se poursuivra au niveau d'un plan d'eau. Un plan d'eau auquel Liana avait habitude d'y aller lorsqu'elle venait ici en vacances. Des membres de sa famille sont présents, à l'image de ses grands-parents et d'une de ses tantes.
Suzy Bernard-Ménégus avec Louis Santerre en direct de Saint-Jean-d'Angély, en Charente-Maritime.
Eva Darlan, vous étiez hier soir place Vendôme pour manifester avec d'autres personnes devant finalement les fenêtres du bureau de Gérald Darmanin, le ministre de la Justice. Il aurait dû démissionner.
Il faut qu'il démissionne. Ce qu'il a fait, il est responsable de ce qui est arrivé en n'agissant pas depuis le temps qu'on demande qu'il agisse. Il est responsable.
Pourtant, en ce moment, il se démultiplie, on le voit partout.
Ça n'empêche.
Il fait des annonces.
C'est faux, mais tout ça, mais ça va. Je veux dire que quand il a dit, il était terrifié, il est terrifié de ce qui arrive. Il est terrifié de perdre son poste. Il est terrifié de quoi? Il n'aurait pas pu agir avant? Ceux qui n'agissent pas sont complices.
Donc vous ne lui faites pas confiance pour trouver des solutions?
Déjà, je ne lui faisais pas confiance avant, quand j'ai vu qui il était.
Enfin, et puis, c'est quoi qu'il était?
Et puis,
il était, ça veut dire quoi?
Rappelons que cet homme a quand même été une plainte d'envergure, d'échange sexuel contre une...
Il y a eu un non-lieu.
Ça n'empêche pas que ce ne soit pas arrivé.
Oui, enfin, il y a un non-lieu, la justice est passée.
La justice, mais il y a la vie, et il y a ce que disent les femmes. Et on les croit.
Jean-René Cazeneuve, est-ce que Gérald Darmanin peut tenir à son poste? Est-ce qu'il est le mieux placé aujourd'hui pour répondre à ce fiasco judiciaire, lui qui est garde des Sceaux depuis 2024?
Est-ce que quelqu'un croit sérieusement que la démission de Gérald Darmanin va régler le moindre problème?
Ben, au moins, il y aura quelqu'un de parti.
Oui, est-ce que on n'a pas intérêt aujourd'hui, au contraire, à travailler collectivement pour essayer de régler ce problème systémique? C'est ça qui devrait aujourd'hui nous rassembler. Comment on arrive, on dégage des marges de manœuvre pour augmenter encore le budget de la justice? Comment on fait voter cette loi intégrale sur les violences sexistes et sexuelles? C'est ça aujourd'hui qui devrait nous rassembler. Je constate qu'il y a quand même quelques récupérations politiques qui paraissent déplacées.
Qui ça? Lesquelles?
Il me paraît se passer. Si vous avez assisté comme moi à la séance des questions au gouvernement, si vous voulez, moi j'étais à la marche blanche. À Florence.
Je voudrais vous êtes député
témoigner,
du Gers, ça, je rappelle.
Oui, je voudrais témoigner de la grande pudeur de la responsabilité des parents de cette pauvre enfant qui ont appelé justement ce qui n'est pas de récupération politique. La grande.
Oui, mais pas de récupération politique en même temps. On demande aussi aux politiques des solutions.
Parce qu'en allant à la marche blanche, c'est pas de la récupération politique.
Bien sûr.
En allant à la marche blanche, c'est pas de la récupération politique.
Tous les citoyens du Gers étaient là.
Vous êtes député depuis combien de temps, M. Cazeneuve?
9 ans.
Bon. Donc, ça fait 10 ans qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Oui. Le budget de la justice, il a augmenté, oui.
40%.
Est-ce que les moyens concrets sur le terrain, ils y sont? On continue de déplorer que ça n'avance pas.
Mais on peut toujours avoir beaucoup plus, bien évidemment. Mais s'il y a bien un budget qui a augmenté, c'est celui-là.
Pourquoi ça ne bouge pas sur le terrain?
Je peux vous donner des exemples de ce qui a bougé sur le terrain. Le nombre de magistrats a augmenté dans le GR, si c'est votre question.
Il y
a une unité médico-judiciaire qui a été installée. Il y a un UAPED qui a été installé ces dernières années. Donc, il y a des choses qui bougent. Hélas, on n'a pas pu éviter ce drame.
Excusez-moi, monsieur le député, je suis avocate, mais quand on donne un grain de riz supplémentaire à quelqu'un qui est dans un état de famine, on ne le nourrit pas. La justice est exactement pareil. Je vous le dis, je suis tous les jours dans les tribunaux et vous êtes là. Je vous le dis, vous avez donné, certes, le gouvernement a donné, mais ça n'est pas assez.
Je dis pas que
tous
c'est assez.
Les avocats le disent. Les représentants de notre profession, ils le disent tous. Le budget a augmenté, mais ce n'est toujours pas assez. Et nous avons toujours une justice qui est en retard par rapport au budget. On est l'avant-dernier pays d'Europe. Je veux dire, si ce n'est pas une honte pour le pays des droits de l'homme, on ne peut pas dire autrement.
Je ne vous dis pas le contraire, mais c'est-à-dire, parlons de l'état dans lequel était la justice en 2017, pour la récupérer à ce moment-là.
Il y a quand même une volonté d'augmenter le budget.
On a un point de départ, on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas eu... Comme si les socialistes n'avaient pas, si vous voulez, pas augmenté le budget entre 2012 et 2017.
Je voudrais quand même, dire qu'avant que ce drame n'advienne, nous avons, dans le cadre de la commission d'enquête sur l'inceste parental, auditionné les ministres Nunez et Darmanin. Le ministre Darmanin a dit toute la honte qu'il avait pour le pays, que ce crime de l'inceste perdure, se reproduise, que les victimes ne soient pas protégées, que les mères protectrices, elles, par contre, soient pour certaines poursuivies jusqu'à aller en prison. Enfin, c'est quand même des femmes qu'on a auditionnées qui nous ont expliqué tout ce parcours extrêmement difficile. Et le ministre, pendant cette audition, a dit qu'il n'était pas satisfait de son budget et qu'il se battait pour obtenir des moyens suffisants. Donc moi, je suis assez frappée quand même d'avoir eu, il y a 3 semaines, ces propos en commission d'enquête et aujourd'hui, qu'on nous explique qu'à moyen constant, en mettant une priorité absolue dans une circulaire, on va pouvoir régler les choses. Je crois que c'est pas sérieux. Une PPL intégrale qui va toucher jusqu'au protocole de soins des agresseurs et des victimes. Parce que ça aussi, on en a besoin. Mais est-ce que vous savez, pour 8 millions d'enfants qu'il y a dans notre pays, combien il reste de pédopsychiatres dans notre pays? 8 millions d'enfants, 437 pédopsychiatres. Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce qu'on peut tenir la barre de la réparation de nos victimes? Non, sur les psychiatres, 40% des postes de psychiatres en hospitalière sont vacants. Comment on prend en charge la santé mentale des jeunes, la santé de ceux qui ont failli, qui ont commis des crimes? Enfin, mais on n'a pas les moyens aujourd'hui.
Chose, monsieur Cazeneuve, c'est que là, on va aller vers l'été. Donc, l'Assemblée va plus travailler. Ensuite, il y aura la campagne pour l'élection présidentielle. Ne faisons pas croire aux Français qu'il va se passer quelque chose d'ici le mois de mai prochain.
Non,
il va rien se passer. Rien ne va changer.
Je crois que c'est...
Les tribunaux seront toujours embolisés, il n'y aura pas de loi majeure. Donc, soyons clairs.
Non, concrètement, Gérald Darmanin...
On va pas
le nombre de magistrats supplémentaires
dossiers.
Qui sortaient de Bordeaux
non,
cette année.
On va pas traiter les 70 000 dossiers non plus, M. Cazeneuve, il faut dire la vérité aux Français. Il y a de l'émotion, il y a des effets de manche, il y a peut-être de l'esbrouf, on fait de la politique parce que derrière... On est potentiellement candidat aussi, on veut essayer de faire gagner sa famille politique, mais il va rien se passer.
On se mette d'accord. Personne ne dit qu'on fait assez. Personne.
Non, je pense, est-ce qu'il va se passer
personne
quelque chose
dans l'année
qui vient ?
Personne ne dit qu'il n'y a pas eu d'erreur.
C'est tout.
Personne. Donc, bien sûr qu'il faut faire beaucoup plus que ce qui a été fait.
Alors concrètement,
je dis, ne laissons pas dire non plus que rien n'a été fait. Mais d'accord ? Donc je pense que, et on revient sur ce que je disais tout à l'heure. Oui, je crois qu'on peut voter en urgence parce qu'il y a des consensus, parce qu'il y a une situation d'urgence, un certain nombre de choses.
Mais dans le budget qui est en préparation, vous avez un budget à préparer. Est-ce que le budget de la justice sera sacralisé? Parce qu'on entendait...
Il faut que le budget...
On entendait ici ou là qu'il y avait des rabotages prévus, même pour le budget de la justice.
Le budget de la justice a augmenté de 3,5 milliards depuis 2017.
Pour 2027.
Il peut augmenter la PPL, le chiffrage est aux alentours de 2 milliards et demi, cette fameuse PPL de loi intégrale. Oui, il faut trouver ces 2 milliards et demi, si c'est le bon chiffrage, dans les prochaines années, pour adresser ce
donc
problème.
Le budget. Merci à tous, merci d'avoir débattu sur notre plateau. On va retrouver Thomas Girard en direct de Saint-Jean-d'Angély, en Charente-Maritime, d'où doit partir cette marche blanche organisée par les grands-parents de Liana, Thomas.
Oui, bien écoutez, il commence à y avoir du monde du côté de Saint-Jean-d'Angély pour cet hommage à l'initiative de la famille. Un lien fort unit cette famille, car c'est ici, dans ce département, que Liana est née. Un rassemblement qui a débuté sur les coups de 18h. Un cortège qui va commencer à partir de la mairie pour se rendre dans le centre-ville. Un arrêt est prévu devant le collège de la commune. Et c'est ici qu'un membre de la famille devrait prendre la parole et qu'une minute de silence aura lieu. Alors, on y voit des personnes portant des roses blanches, comme voulu par la famille. Une atmosphère pesante se fait ressentir ici dans la commune. On peut même y apercevoir le papy, la mamie de Liana, ainsi que sa tante en tête de cortège. Une marche qui se finira au niveau d'un plan d'eau et où se trouve un espace aquatique où Liana avait l'habitude de venir ici en Charente-Maritime.
Le vin.
Merci Thomas. Donc avec cette marche blanche emmenée par les grands-parents qu'on voit à l'écran, les grands-parents de la petite Liana. Bruno Retailleau, bonsoir.
Bonsoir.
Il y a une émotion considérable. Et elle est toujours là, cette émotion, comme en témoigne cette marche blanche organisée à Saint-Jean-d'Angély ce soir. Comment vous l'expliquez ?
C'est humain. S'en prendre à un enfant dans ces conditions-là, c'est le summum de la barbarie. Quand on est parent, quand on a des enfants, quand on a des petits-enfants, les grands-parents pour cette marche blanche, on comprend exactement ce qu'ils ressentent. On s'en remet jamais. On peut punir l'individu qui a fait ça. Il faut le punir, sévèrement. Mais on s'en remet jamais. On reste avec une plaie ouverte toute sa vie. Voilà.
Cet individu, visiblement, n'a pas été puni assez tôt. On aurait peut-être pu empêcher le drame qui est arrivé. Quelles sont vos solutions ?
Bien sûr, on aurait dû l'empêcher. On aurait dû l'empêcher parce que c'est même pas un dysfonctionnement. Il va falloir tout remettre à plat.
C'est un scandale d'État ?
En tout cas, c'est un scandale, point. Et ça émeut tous les Français. Le peuple français est en colère et je pense que là, il y a quelque chose qu'on a franchi, vous voyez, comme une limite. Et il demande des comptes. Mes solutions, ça sera de renverser vraiment la table, d'avoir une autre justice que celle qu'on a aujourd'hui. Je veux pas dire, attention, qu'on comprenne bien, beaucoup de magistrats qui font très bien leur travail. Mais il faut réhabiliter la sanction. Le problème en France, c'est qu'on a inventé un droit à l'inexécution des peines. Vous avez un juge d'application des peines qui défait ce qu'un juge au tribunal va faire. C'est pour ça qu'il y a tellement d'écart entre les peines qui sont encourues, les peines qui sont prononcées et les peines exécutées. Moi, je propose la suppression du juge d'application des peines. On est les seuls, d'ailleurs, avec l'Italie, à avoir un juge d'application des peines. Ce que je propose, c'est qu'on incarcère plus, c'est qu'on incarcère beaucoup plus tôt, c'est qu'on revoit, puisqu'on a beaucoup d'aménagements de peines. On incarcère en France, on donne des peines de prison.
Il n'y a plus de place dans les prisons.
Oui, mais regardez ce qu'a fait la Hollande. D'abord, ils incarcèrent beaucoup plus tôt, à population équivalente, ils donnent deux fois plus de peines que nous, et ils ont moitié moins de détenus. Pourquoi ? Parce que, notamment pour la justice des mineurs, nous, on attend le dernier moment pour les incarcérer. C'est-à-dire que on les enferme dans un parcours de délinquance. Ils volent un œuf, un bœuf, etc., avec violence, et après, il y a un crime, et c'est trop tard. Alors là, bien sûr, ils vont faire beaucoup de prison. Donc, moi, ce que je propose, c'est des peines de prison, y compris des courtes peines, dès les premiers délits graves. Comme ça, on peut empêcher des gens d'en commettre d'encore plus graves. Donc, un, on réhabilite la sanction. Il fera bien sûr construire des nouvelles prisons. On réforme complètement la justice des mineurs. Croyez-moi, quand j'étais ministre de l'Intérieur, j'étais choqué parce qu'il y avait une explosion de violence pour les mineurs. Et ces mineurs-là, parfois, ils avaient 30 antécédents judiciaires. Ça veut dire qu'on leur avait assuré une forme d'impunité, c'est plus possible. Dès les premiers délits, on les emprisonne. Des prisons, notamment, et des peines d'une semaine, de deux semaines. Et puis, il y a aussi autre chose. Il y a la question de la responsabilité des magistrats. Il y a la question, là encore, de l'impartialité.
Comment vous l'engagez, la responsabilité des magistrats ? Vous avez proposé une cour qui jugerait les magistrats ?
Oui, parce que je pense qu'on a un système aujourd'hui, cour conseil supérieur, une cour disciplinaire. On a un conseil supérieur de la magistrature qui ne fonctionne pas vis-à-vis des sanctions. Regardez, l'an dernier, en 2024, sur les centaines de plaintes de justiciables, on a eu zéro renvoi en cour de discipline, en conseil de discipline. Et en 2025, sur des centaines de plaintes, il y a eu un seul renvoi en cour de discipline. Je parle pas des fautes, disons, de droit commun, c'est-à-dire que voilà, quelqu'un qui se jette sur une greffière, où il y a des atteintes sexuelles. Non, je parle de fautes dans l'exercice du métier,
de magistrats.
Mais les magistrats, ils rendent en fonction des lois qui...
Non. Ce que je veux, moi, c'est pour des magistrats qui commettent des fautes, notamment personnelles, qu'il y ait une sanction. Et j'ai proposé une cour, notamment de discipline, cour disciplinaire, où il y aurait notamment des citoyens tirés au sort.
Qui sanctionnent les magistrats.
Mais oui, parce que, je vais vous dire, pour sanctionner aujourd'hui, il y aurait trois collèges. Il y aura un collège où vous auriez des citoyens tirés au sort, un collège de magistrats et un collège de personnalités qualifiées. Qui juge les juges? Le problème, il est là, la difficulté. Ça peut pas être l'État, ça peut pas être les parlementaires, parce que l'État de droit nous oblige évidemment à avoir la séparation des pouvoirs. Mais comme la justice est rendue au nom du peuple français, je pense que c'est important, comme les jurys d'assises, que le peuple français puisse avoir son mot à dire.
D'accord, mais quelle est la responsabilité politique de ce gouvernement? Est-ce que Gérald Darmanin aurait dû présenter sa démission?
J'ai jamais, voyez, j'hésite beaucoup, moi, à demander des têtes. Je n'aime pas ça.
On passera qu'un jour, ça soit la vôtre qui soit...
C'est même pas pour ça, mais vous aurez des élus qui, à chaque pépin, demandent la démission. Et alors, ça dépend pas de nous, de toute façon. Il a fait des circulaires. Ça aurait été sans doute différent s'il n'y avait pas eu de circulaire. Le problème, c'est que les circulaires n'ont pas été appliqués. Moi, ce que je propose, notamment pour le parquet, vous savez, il y a une petite musique qui veut que le parquet soit totalement indépendant, les procureurs donc, de la chancellerie.
Et que il y a même une loi qui a été votée, la loi Taubira.
Exactement, oui, mais alors, il y a une loi Taubira, il y a des textes qui ont été votés pour modifier la Constitution. Moi, je pense, autant les magistrats du siège, les juges d'instruction doivent être totalement indépendants. Mais autant il doit y avoir une politique pénale en France. Pourquoi? Parce que le garde des Sceaux, il est responsable devant le Parlement, devant le représentant des Français. Eh bien, justement, le ministère public, il représente la société. Donc, quelque part, il doit être un peu responsable devant le garde des Sceaux.
Mais justement, est-ce que le garde des Sceaux, il aurait dû de lui-même proposer sa démission au président de la République?
Ça lui appartient. Aujourd'hui, il n'y a pas de faute caractéristique. Il y a
est-ce que
des
vous l'auriez
circulaires.
Fait, moi, à sa place? Oui, est-ce que vous auriez remis votre démission?
Franchement, je n'étais pas à sa place.
Mais vous demandez quand même une commission d'enquête parlementaire.
Bien sûr. Parce que, attendez, regardez, il y a des commissions d'enquête parlementaire sur tout et rien aujourd'hui. Voilà. Un parlementaire se lève, il se réveille et il demande une commission d'enquête. Là, vous avez la France qui est bouleversée. Vous avez le service public de la justice. Les Français n'y croient plus. Il y a quelques mois, je crois que c'est le Cevipof qui a sorti un sondage, et pour 69% de nos compatriotes, ils jugent la justice trop laxiste. Donc, là encore, il faut faire un point. Et si, malheureusement, on doit avoir de la compassion pour la famille qui souffre, pour la victime qui n'est plus là, mais nous, les hommes et les femmes politiques, notre boulot, c'est de prendre des décisions.
Pourquoi est-ce qu'on vous ferait confiance? Vous avez été ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, les policiers, les gendarmes sont noyés sous les plaintes, sous les dossiers. Ils sont dépassés, ils sont surchargés. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous ferez confiance alors que vous avez été aux manettes?
Oui, j'étais aux manettes, mais je n'avais pas toutes les manettes, justement, puisque j'avais un président de la République qui était souvent opposé à mes orientations. Ça vous a pas échappé, pas seulement sur l'Algérie, d'ailleurs, sur l'immigration et autres. Je n'avais pas de majorité à l'Assemblée nationale, mais c'est les prochaines élections présidentielles qui vont permettre de renverser la table. Et, pardon, mais regardez les policiers ou les gendarmes. Ce qui choque les gens, c'est l'impunité des émeutiers le week-end, il y a 10 jours, et c'est en même temps le laisser-passer pour un pédophile multi-signalé. Donc, moi, je pense qu'on a une justice qui est une justice, sans doute faut-il changer la loi. Je ne m'en prends pas aux magistrats, mais quoi qu'il y a une partie des magistrats
si
qui est syndicalisée et politisée.
Vous voulez une cour disciplinaire, donc vous voulez vous en prenez
attendez,
quand
y a,
même.
Il y a le syndicat de la magistrature, pardon pour ne pas le nommer, est clairement politisé. En
il
contradiction.
Représente pas 100%, il représente 30% des magistrats.
Mais c'est tellement important. C'est tellement important. Et d'ailleurs, dans le Conseil supérieur de la magistrature, dont je demande la réforme, il y a un problème. C'est que la haute hiérarchie judiciaire est très représentée parce qu'il n'y a pas un homme, une voix aux élections professionnelles. C'est unique dans toute la fonction publique. Et donc, vous avez une mainmise pour l'évolution des carrières par les syndicats. Et moi, je veux une justice non seulement indépendante, mais impartiale, et qui respecte la loi et l'ordonnance de 58 qui interdit toute délibération politique aux magistrats, y compris aux syndicats. Alors, est-ce que c'est le cas? Non, ce n'est pas le cas.